Non, nous ne sommes pas des terroristes. C'est Divergence Numérique, 27e émission ce soir en direct avec Gilles Gouget, votre serviteur Albert Bruck qui est avec moi et qui cherche son casque. Bonsoir Albert.
Bonsoir Gilles.
Et puis Manuel Plaza qui officie à la régie aujourd'hui. Nos pensées vont à Jean-Claude qui est à Paris ces jours-ci et donc pas avec nous. Et nous sommes aussi accompagnés par Alexandre Cabrol-Perales et Anaël Navarro du projet TimeBridge qui nous parleront aussi de labo-linux.org. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Salut.
Alors au programme ce mois-ci, les nouvelles du front, évidemment pour démarrer cette divergence numérique comme d'habitude. Évidemment, on fera un point sur le projet de loi 1206, dit DAD-VSI, droit d'auteur et droit voisin dans la société de l'information. La sélection littéraire d'Albert ce mois-ci, ce sera Typo 3 aux éditions Erol et un ouvrage dont j'ai oublié le nom.
Rails on Rail aux mêmes éditions.
Voilà, Rails on Rail et non pas le contraire. On parlera ensuite eh bien, avec nos deux accompagnateurs de TimeBridge et de Labo Linux. Et puis en fin d'émission, Dimitri Robert nous appellera pour ses dernières news. Il est en train de préparer un article sur « Et si les DRM, ça devait marcher, qu'est-ce qu'il faudrait faire ?» Notamment, je sais pas, ne plus avoir de connectique entre les ordinateurs. Ne plus avoir d'ordinateur du tout d'ailleurs, ça serait carrément pas plus mal. Et puis peut-être qu'on aura le temps de vous donner l'agenda du libre en fin d'émission, mais rien n'est moins sûr. Et puis de la musique libre, évidemment. On salue notre ami Fred Monin qui nous écoute peut-être de là où il est et qui nous a eh bien, sélectionné BEP, Christophe E, Les Cristaux Liquides et Versus pour ce qui est des pauses musicales de cette émission. Mais tout de suite, ce sont les nouvelles du front.
Les nouvelles du front.
Voilà, les nouvelles du front et la directive, enfin le projet de loi DADVSI. Alors après avoir essayé le passage en force de son projet de loi sur le droit d'auteur, c'était le 22 décembre dernier, Renaud de Vabre essaye maintenant la méthode douce destinée à l'opinion publique pour séduire les internautes hostiles et faire oublier la légalisation du P2P et la licence globale. Comme on l'a vu il n'y a pas si longtemps, entre les internautes et artistes reçus par Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin, il faut à tout prix que le DADVSI ne soit pas un nouvel épisode difficile pour faire passer le nouveau supposé juridique de la réponse graduée destinée à faire cesser le téléchargement illégal des œuvres sur Internet, le gouvernement change de fusil d'épaule et applique judicieusement un lubrifiant sous forme d'une opération de communication rondement menée. Renaud Denaudeuil-Vabre met en place un nouveau site Internet depuis aujourd'hui 18h d'ailleurs, avec les professionnels de la communication Publicis, les contribuables apprécieront, et où les internautes et les artistes pourront débattre dans le meilleur des mondes autour du projet de loi. Après avoir suscité la controverse autour de son projet de loi, le ministre de la Culture essaie de réintroduire un semblant de débat. Des artistes viendront donc exposer aux internautes que télécharger, c'est mal. Les visiteurs pourront obtenir aussi des friandises sous forme de morceaux gratuits et autres podcasts. Ça nous rappelle un petit peu l'épisode à l'Assemblée nationale où les représentants de la FNAC et de Virgin étaient venus remettre des petits cadeaux aux députés, ce qui avait suscité un tollé fort compréhensible. Les téléchargements.com sera ouvert au public à partir d'aujourd'hui 18h, hein, puisque c'était prévu pour hier à partir de 9h. Mais c'est un site qui sera ouvert entre 9h du matin et 1h du matin. Donc pour les Français qui résident à l'étranger, eh ben, ils l'ont un peu dans l'os. Et on se demande pourquoi cette pause en pleine nuit, peut-être pour, on va dire, modérer les forums et éventuellement les censurer. On pourrait évidemment éventuellement s'y attendre.
Je signale d'ailleurs à toute fin utile que, comme la société qui a déposé son nom de domaine n'a déposé que le .com, eucd.info a eu la bonne idée de créer les téléchargements.info, qui est une version, dirons-nous, beaucoup plus libre de les téléchargements.com et que je vous conseille d'aller visiter, très amusant et très instructif aussi.
Oui.
Et dire que les téléchargements.com, ils avaient dit qu'ils mettaient ça jusqu'à 1h du matin, justement pour permettre les gens au soir de venir se connecter.
D'accord. Enfin, en tout cas, on peut s'étonner que le ministère cesse aux échanges d'idées sur le téléchargement alors que le projet de loi remanié n'évoluera plus, sauf au niveau de la copie privée. Seulement pour que le public pense qu'un débat démocratique a eu lieu et faire oublier que le Parlement a voté la légalisation du téléchargement contre rémunération. En tout cas, serrer les dents, ça finira par nous faire mal, puisque le ministre veut exclure du champ de la copie privée les DVD. Le consommateur ne pourra donc plus faire de copie de sauvegarde de ses DVD, ce qui est complètement inique, pour parler poliment. Évidemment, la Ligue au débit ne s'est pas gênée de réagir à ce site et propose eh bien, un Google bombing, c'est-à-dire de référencer au maximum ce site pour que tout le monde puisse y aller, pour que le nombre de contributeurs à ces forums dépasse l'entendement et que peut-être bah, finalement le site soit saturé. En tout cas, la Ligue au débit réagit toujours au quart de tour par rapport à ça. Elle en déduit que ce site comportera nécessairement un forum ouvert au public. Cela étant, il semblerait que le ministère de la Culture ait décidé que le site sera ouvert tous les jours de 9h à 1h du matin, on l'a déjà dit, jusqu'au vote complet de la loi par le Sénat. Hormis le ridicule d'un tel couvre-feu sur le web, je cite, la Ligue au débit estime qu'il s'agit là d'une discrimination inacceptable à l'égard de la minorité de citoyens dont les horaires ne sont pas compatibles avec la tranche horaire imposée, comme par exemple les Français résidant à l'étranger. La Ligue au débit demande donc au ministre Donnedieu la levée d'une restriction attentatoire à l'égalité des citoyens en matière de liberté d'expression. Techniquement, on est d'accord. Par ailleurs, ayant constaté la partialité d'un ministère tout acquis aux intérêts de l'industrie culturelle, au détriment des droits des citoyens, au débit ne peut que s'inquiéter d'un abus de modération sur ce site et demande au ministère Donnedieu de veiller strictement au respect de la pluralité à l'expression publique. Cela étant, afin de garantir cette pluralité, la Ligue au débit met à disposition des internautes un forum, allez voir sur www.audebit.org, sur lequel ils seront invités à poster les contributions qui seraient éventuellement censurées par le ministère. Pouvoir et contre-pouvoir sont les deux mamelles de la démocratie, pourrait-on dire. On précise aussi qu'il y a beaucoup d'infos à trouver là-dessus. Pour ce qui concerne le Google bombing, pour participer, il suffit de placer un lien sur son site qu'on retrouve sur www.odb.org. Je ne vais pas vous donner le lien parce que ça commence à devenir du script et les balises HTML à la radio, c'est carrément inesthétique. Voilà pour ce qui concerne le projet de loi de la DVSI, donc, dont la discussion a été reportée, il me semble, au 8 mars. Voilà. Donc, on verra bien ce qu'il en ressortira. À propos de ça, il y avait quand même une réaction de EUCD.info par rapport à la diffusion sur France 2 de Complément d'enquête, un reportage sur le projet de loi DADVSI, où on y voyait des députés de la majorité auditionner des représentants de l'industrie du disque. L'ambiance était apparemment tendue. Dans une séquence interrogée sur cette tension, le député du Tarn, Bernard Carayon, et l'un de ses collaborateurs expliquaient que les enjeux financiers considérables de ce dossier justifiaient pour certains des méthodes contraires à la morale républicaine. Il prenait comme exemple les menaces de retrait de subventions destinées aux festivals organisés en province. Ce faisant, M. Carayon et son collaborateur n'ont fait que confirmer publiquement ce qui était déjà connu de UCD. En l'occurrence, un employé de la S, sans plus de précision, à mon avis c'est plutôt la SACEM, utilise le privilège que constitue la gestion de l'argent de la redevance copie privée, qui représente je crois 40 millions d'euros pour la SACEM tous les ans, à des fins de pression sur les parlementaires disposant de mandats locaux ou régionaux. Le chantage est en substance, l'argent en provenance de la redevance copie privée et que nous attribuons pour financer les événements culturels qui se dérouleront dans vos communes ou régions vous sera retiré si vous ne votez pas comme nous le souhaitons. Un procédé jugé évidemment inacceptable par UCD.info, puisque la société en question défend des intérêts particuliers, en l'occurrence ceux de ses sociétaires. Un élu peut estimer que d'autres intérêts prévalent pour parvenir à l'intérêt général. Lorsque cela arrive, la SACEM ne devrait pas pouvoir impunément la menacer en détournant son but premier, les 25% de la redevance copie privé destiné à la création artistique, argent que le public verse pour financer la diversité culturelle, l'émergence de jeunes talents et l'accès à la culture pour tous. Cet argent n'a pas à être pris en otage de la sorte. Donc ça y va, quoi. Hein.
Ça arrache le bois, comme on dit. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que pour l'instant et toujours, et malgré cette nouvelle loi, si jamais elle est votée, la SACEM continuera à prélever une taxe sur les supports numériques. Les supports numériques, je vous le rappelle, peuvent servir à autre chose qu'à copier de l'image, de la vidéo ou du son, du moins du son ou de l'image copyrighté. Donc voilà, il faut s'en rappeler, s'en souvenir, savoir que ben, il n'y a pas que les gens qui sont des grosses sociétés, qui appartiennent des grosses majors, qui peuvent faire de l'audio et de la vidéo, et qu'il y a aussi de la musique libre qui existe, et maintenant même des petits films libres en Creative Commons ou autre.
Voilà, alors toujours pour revenir au propos de la de EUCD.info, au regard de la gravité de ces faits, EUCD.info demande donc de créer une commission d'enquête parlementaire sur les pressions que subissent actuellement les élus et sur l'utilisation passée et présente des fonds en provenance de la redevance copie privée, puisque là aussi il y a quand même quelques doutes quant à la bonne redistribution de ces fonds qui sont quand même assez importants. La menace dévoilée sur France 2 n'est pas d'après nos informations qu'un élément révélateur de pratiques répétées depuis des décennies et qui ne font que s'amplifier. Par conséquent, il demande de reporter l'examen du projet de loi le temps que la commission d'enquête soit lancée et fasse la lumière sur le dossier lié à l'utilisation détournée de la redevance copie privée. Il demande également d'inviter le ministre à se rendre devant la commission des affaires culturelles et sociales de l'Assemblée nationale et de retransmettre son audition à un format ouvert sur Internet. Et puis il demande enfin de demander officiellement au Premier ministre le retrait de l'urgence pour que la représentation nationale puisse légiférer dans des conditions décentes, dignes de la République. Communiqué signé Frédéric Couchet et Christophe Esperne, membre fondateur de l'initiative EUCD.info.
Ce qu'il ne faut pas oublier non plus dans cette histoire, c'est que l'Europe va réexaminer ce projet, parce que c'est en fait DADVSI vient d'un projet européen que l'État français aurait déjà dû valider d'une manière ou d'une autre.
Ils ont bien fait de tarder, puisque effectivement la Commission européenne a déclaré à la fin de l'année dernière elle-même que la directive européenne serait revue en 2006 parce que c'était une mauvaise directive.
Au mois d'avril.
Voilà, au mois d'avril.
Donc, il est urgent d'attendre dans cette histoire.
Voilà, exactement. Il est urgent d'attendre. Petite brève pour clore ces nouvelles du front. On peut lire sur EUCD.info qu'il y a une tribune qui est parue dans la Libre Belgique du professeur Étienne Vasmeur, un professeur d'économie à Montréal, chargé de recherche dans diverses fondations et spécialisé sur les dynamiques du marché du travail. Et qui parlait justement par rapport à tous ces problèmes. Une fois posée cette perspective historique, on voit bien l'inanité de raisonner en termes légaux sur la base de la situation pré-Internet. À cet égard, l'arrière-gardisme n'est pas nouveau. On sait qu'après l'invention de Gutenberg, la République de Venise tenta par décret d'attribuer le monopole de l'impression des livres à l'imprimeur allemand Johannes von Speyer. Autre ironie, Gutenberg mourut ruiné à la suite d'un procès fait par les fabricants de presse à raisin pour le vol de l'idée de vice sans fin. C'est quand même n'importe quoi, mais c'est toujours édifiant de voir un petit peu ce qui peut se passer à droite ou à gauche. On peut aussi citer la création de FFII France, un nouvel outil pour la démocratie électronique, création qui a été annoncée en grande pompe lors de Solution Linux, qui c'était le 31 janvier au 2 février au CNIT à La Défense. Dans le grand combat qui fut mené par le Parlement européen en 2005 et dont j'étais rapporteur contre la brevetabilité des logiciels, c'est-à-dire contre la monopolisation économique des produits de la pensée humaine, j'ai réussi à obtenir un soutien considérable de la FFII. Aussi, c'est avec une vraie satisfaction que j'assiste à la naissance de sa branche française. Je veux souhaiter longue vie et bonne chance à cet outil nouveau de démocratie électronique. C'est par ces mots que Michel Rocard, figure politique emblématique de la lutte contre les brevets logiciels, a accueilli l'annonce de la création de la FFII France. C'est plutôt bien.
Oui, non, c'est plutôt bien, surtout qu'à Divergence, on avait eu l'info légèrement avant. On avait diffusé, toujours la pointe, on a fait diffuser une émission sur DADVSI pendant un week-end, je crois que c'était il y a un peu plus d'un mois, c'était juste avant la solution Linux, je crois, où effectivement le responsable de la FFI avait expliqué les raisons de la création de la FFI France. Donc bon, on rediffusera sans doute ça ultérieurement.
Voilà, tout à fait. Et puis autre initiative de UCD.info, c'est Radio DADVSI. Actualité et débat autour du DADVSI. Suite au succès de la dernière conférence qui avait eu lieu le 21 janvier dernier, UCD.info lance une série d'émissions conférences intitulées Radio DADVSI. En tout cas, on peut lire ça sur UCD.info. Le but est triple, faire régulièrement un point sur l'actualité, faire débattre divers invités sur des aspects précis de cette problématique, permettre un débat question-réponse avec le public par l'intermédiaire d'un canal IRC. C'est des enregistrements qu'on pourra écouter sur Divergence prochainement. Et tout ça se passe à Paris,
au carrefour numérique
de la Cité des Sciences. Et
d'ailleurs, ça a changé de nom entre-temps. pour des raisons, on va dire, diplomatiques. L'État a demandé urgemment que cette émission, ce débat qui était sous forme d'émission, change de nom, ça s'appelle plus Radio DAD VSI. Donc c'est débat autour d'un projet sur une loi, etc., etc., etc.
Bon, en tout cas, on change l'étiquette pour pas froisser, mais ça reste un petit peu la même chose. Et puis je termine presque avec bien des petites, juste pour souligner que UCL.info intervient auprès de nombreux députés. Notamment, c'était le cas le 29 janvier lors d'une rencontre débat organisée par la députée Martine Billard des Verts. Un petit peu plus tard, ils étaient invités à la table ronde organisée par la députée Christine Boutin. Et puis UCL.info a participé aussi à la table ronde organisée par la commission des affaires culturelles du Sénat. Donc après leur avoir interdit de siéger à la commission du CSPLA qui a pondu ce texte pendant 3 ans malgré leurs tentatives répétées d'y participer, bien on peut dire que le monde politique se tourne à présent régulièrement vers EUCD.info pour avoir des avis autorisés, compétents et techniques. Au niveau local, on peut saluer Marc Le Fur et Robert Lecoux. Robert Lecoux, député maire de l'Odève, qui ont proposé quelques amendements, notamment pour permettre aux consommateurs de pouvoir lire les œuvres achetées sur l'ensemble des formats et appareils ordinairement utilisés à cet effet. Il est nécessaire d'empêcher les mesures de protection qui ont pour effet de rendre purement et simplement illisibles les supports numériques sur un certain nombre d'appareils. C'est quand même plutôt bien. Donc pas mal d'activités en fait au niveau parlementaire autour de cette question, et souhaitons que ça dure et que les élus chopent les infos et en tirent les conséquences qui s'imposent. Je crois qu'on va terminer là pour ces nouvelles du front, on va dire entièrement consacrées à cette question des droits d'auteur et droits voisins associés de l'information, mais bon, ça continue. Peut-être t'as un petit tuyau, Albert, sur les brevets. De toute façon, c'est pas fini non plus au niveau de l'Europe.
Non, c'est pas fini, ça recommence. Et pour l'instant, la Commission européenne est en train de réfléchir au problème. Donc, je pense qu'on aura sans doute plus d'informations d'ici la fin du mois de mars, au début du mois d'avril, mais la bataille recommence et je pense que la FFI et tous les gens qui travaillent sur cette problématique-là ont encore du travail. Ils pensaient être tranquilles, mais non, ça y est, c'est reparti. Le Parlement européen va encore s'amuser et la Commission européenne aussi, et nous avec.
C'est clair, mais la Terre ne s'arrête jamais de tourner, donc c'est une bonne chose que les choses non plus ne s'arrêtent pas de tourner. Un petit peu de musique à présent à faire tourner sur nos platines, de la musique libre évidemment. Le titre c'est Undergroove, l'artiste c'est Bep, B-E-P, Bruno Santi dit Bep, qui vient de la région toulousaine et qui fait partie du collectif Révolution Sound Records, revolutionsoundrecords.org. Un titre que l'on peut aussi trouver chez Jamendo sous licence Creative Commons by NCSA 2.5. Ça veut dire qu'il faut citer l'auteur, on l'a fait, et on ne fait pas d'utilisation commerciale puisqu'on est une radio non commerciale, et si on redistribuait ce morceau, on le ferait sous la même licence. Voilà, c'est dit. Bruno Santi, alias Bep, toulousain de son état, qui nous interprétait Undergroove sous licence Creative Commons by NCSA 2.5 pour une petite pause musicale sélectionnée par Fred Monin. Et bien, on passe à présent à la rubrique littéraire d'Albert qui nous amène deux pavés sortis chez Erol.
Alors oui, le premier, c'est Typo 3. Alors, qu'est-ce que c'est que Typo 3? Typo 3, c'est un CMS, comme il en existe d'autres, comme il existe Speed. Alors,
CMS, voilà, c'est des Content Management System qui permettent de gérer des contenus sur Internet facilement.
Tout à fait, comme Divergence utilise Speed ou d'autres sites utilisent DotClear, qui sont d'autres CMS qui existent. Là, Typo 3, c'est un CMS un tout petit peu particulier, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus puissant que Speed ou ce qui existe en général. C'est pour certains une énorme usine à gaz, pour d'autres c'est la solution pour faire exactement tout ce qu'on veut avec un CMS, de la gestion de contenu à la vente en ligne, avec un langage de script derrière. Voilà, c'est peut-être ça, c'est plutôt au technicien qui est très puissant, qui permet de faire effectivement beaucoup de choses, de séparer le contenu du contenant. Donc ça permet de faire un site web, mais de l'envoyer sur le WAP directement sans avoir quasiment rien à faire. C'est vraiment un outil très puissant qui est disponible en plusieurs langues, qui permet aussi de faire des tas de choses. En parler comme ça, c'est pas évident, mais par exemple, pour des systèmes d'hébergement mutualisé, pour ceux qui connaissent, on peut, en installant seulement Typo 3, héberger de nombreux sites sans avoir besoin de recréer les arborescences pour parler vraiment là technique.
Donc c'est un bouquin qui s'adresse quand même aux techniciens.
Aux techniciens et aux programmeurs, mais qui en même temps est assez simple d'accès pour un utilisateur débutant, qui lui permet d'avancer et d'utiliser cet outil qui est vraiment très puissant, très complet, qui a un équivalent plus ou moins libre qui s'appelle EZ Publish. Il est à son niveau et c'est vraiment un CMS d'une très très grande qualité qui se rapproche vraiment des outils propriétaires haut de gamme.
Alors c'est un bouquin, il y a trois auteurs qui ont contribué à écrire ce bouquin. Est-ce que c'est accessible ou est-ce que c'est vraiment le type de bouquin réservé à des gens qui savent?
Non, c'est un bouquin qui est accessible, qui commence assez simplement et qui va assez loin. C'est
crescendo.
Pour ça que crescendo, tout à fait.
C'est pour ça qu'il fait dans les 450 pages,
voire même 500, 600. Et donc, c'est un très bon bouquin. C'est une traduction pour une fois chez Erol, ce qui est assez rare, qui est plutôt friand d'œuvres originales.
C'était plutôt la spécialité de Riley, ça.
Tout à fait. Et en fait, là, c'est les trois auteurs, c'est-à-dire Werner Altman, René Fritz et Daniel Inderink, qui sont, comme vous l'aurez deviné, d'origine allemande, et traduits et mis en place et mis à jour par les développeurs et les correcteurs, qui sont eux-mêmes des utilisateurs de Typo 3 et qui ont mis à jour l'ouvrage, qui est vraiment très, très, très bien fait. À la fois technique, mais à la fois accessible pour tous ceux qui voudraient s'y intéresser, à savoir que c'est quand même quelque chose, quand on le met en place, qui est assez lourde et qui demande du temps, mais c'est un très très bon produit.
Voilà, donc Typo 3, c'est chez Erol, et j'imagine que ça coûte quand même le prix du papier, parce que si, à défaut de comprendre ce qu'il y a marqué dedans, vous pouvez vous en servir pour assommer votre ennemi favori. Je pense qu'il y a au moins 1,5 kg de papier.
Tout à fait, et c'est au prix de 45 euros.
Tout de même.
Il ne faut pas oublier que les CMS, c'est très bien pour les associations qui débutent et qui ont plein de gens à vouloir mettre en œuvre. Nous, TimeRich, on l'a bien vu, on a besoin de CMS. Tenez-vous au courant.
Voilà, on passe à un autre qui s'appelle Ruby on Rails et non pas Race on Rail comme je l'ai marqué fautement sur le site, mais la transmission téléphonique ne m'avait pas précisé l'orthographe. Je me doutais que c'était pas ça parce que je trouvais pas dans les moteurs de recherche Race on Rail. Donc Ruby on Rails, mais qu'est-ce que c'est? C'est des rubis sur les rails, c'est le train de la fortune, un convoi exceptionnel de pierres précieuses en provenance du Turkménistan. Non.
Alors, on va dire, c'est un peu, ça permet de faire un peu la même chose qu'un CMS, mais c'est beaucoup plus puissant. Ruby on Rails, c'est un peu l'équivalent de Zop pour ceux qui connaissent Zop, qui est fait à partir de Python.
Python, c'est un langage de programmation.
C'est un langage de programmation dont on a parlé dans de nombreuses émissions déjà.
Oui, il y en a qui nous écoutent et qui se disent Zop, Python, mais c'est quoi?
C'est un langage de Python est un langage de script comme l'est le Basic ou le Pascal ou d'autres langages si vous avez déjà programmé qui existent. Donc Ruby, c'est donc un nouveau langage qui se rapproche de Python aussi. Donc sous Python, il existe Zop qui permet de faire de la gestion de contenu, mais pas seulement, qui est un véritable framework, alors en français...
un cadre de travail.
Voilà, qui permet de faire énormément de choses, qui est utilisé, Zop d'ailleurs, par de nombreuses sociétés, et pas des moindres, de grands journaux américains l'utilisent pour leur contenu... pour mettre leur contenu en ligne. D'ailleurs, à ce propos, on se rappellera des événements du 11 septembre.
Ah
septembre,
oui, voilà, c'était
de 2000.
Et seul site qui n'avait pas planté, c'était ceux qui étaient sous Zop. Ouais.
Voilà. Donc ça, c'est une info. Mais Ruby on Rails propose de faire la même chose que donc Zop. Il est arrivé en version 1 en fin décembre. Ce livre est sorti début janvier. Donc pour ça dire, peut-être il n'est pas à jour, mais non, les personnes qui ont travaillé dessus ont travaillé. Déjà, c'est aussi une autre tradition aussi chez Erol, mais les personnes françaises qui ont travaillé dessus ont suivi le développement jusqu'au bout, ont donc mis à jour le livre parlant de Ruby on Rails sur la version 1 jusqu'au dernier moment. Et donc là, il sort tout chaud de l'impression il y a à peine quelques semaines. Il parle de la version 1 qui date du mois de décembre 2005. Donc c'est vraiment assez exceptionnel dans l'édition pour le dire. C'est vraiment là un livre qui sort quasiment un mois après la sortie du produit et qui est aussi d'une excellente facture, qui vous explique le fonctionnement du framework Ruby on Rails et de sa programmation et de tout ce qui va à côté. Par contre, contrairement à Typo 3 qui est peut-être accessible à tout le monde avec un peu de travail, Ruby on Rails s'adresse plutôt aux développeurs et aux gens qui connaissent déjà d'une part le langage Ruby et qui s'intéresse vraiment à tout ce qui est framework, CMS, etc., mais à un niveau très puissant et demandant de fortes charges. Donc, ça ne s'adresse peut-être pas à la petite association,
des petites structures, mais plutôt structures, à
plutôt des grosses, ouais. Soit sociétés ou administrations, etc.
Voilà, de grosses structures qui pourront sans problème faire débourser 42 € pour acheter ce bouquin paru chez Erol. Donc.
Tout à fait.
Voilà, alors je vois, malgré les problèmes d'affichage qui sont carrément énormes qu'on a sur notre écran, je vois qu'il y a quelqu'un qui pose une question, Fred21, qui dit « Il y a un responsable qui peut me dire pourquoi les émissions ne sont plus archivées ?» Eh bien, si elles ne sont plus archivées sur libre-radio.org, c'est tout bêtement qu'on n'a pas le temps de les remonter, de les nettoyer, etc. Mais on a un petit peu rattrapé le retard, c'est en cours, donc soyez patients, voilà. Bientôt vous retrouverez toutes les divergence numérique sur libre-radio.org sans problème.
Et aussi sur tuxfamily.org très prochainement, qui d'ailleurs attend que je lui envoie les deux premières émissions d'Aller Libre Ma Musique.
Voilà, mais ça ne saurait tarder puisque les fichiers sont prêts, tagués, tout compressés, etc. Voilà, un petit peu de musique après cette chronique littéraire, ma foi, fort pointue. Hein. La prochaine fois, il faudra essayer de trouver un bouquin style... comment utiliser le clavier de mon ordinateur le mieux possible, par exemple. Ça rendrait de fiers services à de nombreuses personnes. Ou alors, quelles sont les règles absolues qu'on retrouve dans tous les logiciels, style ouvrir, CTRL-O, fermer.
Mais j'ai déjà parlé de tes livres. Tu es assez méchant avec moi parce que j'ai parlé déjà de tes livres. Non, c'est vrai que bon, selon les mois, l'édition propose des livres plus ou moins techniques. Là, ce mois-ci, il y en a eu deux qui sont assez techniques, mais qui malgré tout, je pense, peuvent intéresser... pas mal de gens, ne serait-ce que même pour les développeurs ou les gens qui ont envie de trafiquer leur ordinateur, c'est toujours intéressant de savoir.
Voilà, puis c'est tout à fait cohérent avec l'idée qu'on défend, c'est-à-dire que l'informatique, on va dire que les commerciaux veulent nous faire croire que c'est la panacée, que c'est facile et qu'il suffit d'acheter l'ordinateur et les logiciels pour pouvoir s'en servir. Et nous, on défend plutôt l'idée que l'informatique, c'est tout sauf simple. Il faut passer du temps pour apprendre à servir des logiciels, pour apprendre à servir de son système d'exploitation, pour apprendre à faire les choses comme il faut et pas faire n'importe quoi. Et à ce titre, voilà, nous on n'est pas du style à dire c'est facile, allez-y, faites-le. Donc c'est vrai qu'il y a des choses pointues et c'est normal qu'on parle aussi des bouquins qui le sont aussi. Musique pointue, c'est celle de Christophe E qui nous interprète Spirit Attraction sous licence Creative Commons by NCND. Donc citer l'auteur, pas d'utilisation commerciale et pas de travaux dérivatifs. Donc pas de modification sans son accord, hein, toujours pareil, les clauses, négatives des licences Creative Commons ne sont pas des interdictions, mais sont simplement des suggestions à l'accord de l'auteur. C'est un artiste de Marseille qu'on écoute. Voilà, c'est Christophe E qui est de Marseille et qui nous interprétait Spirit Attraction sous licence Creative Commons by NCND 2.0. Voilà, bah, y a toujours des gens qui réagissent sur le chat. Une question, que faire si un jour on ferme son site perso parce qu'on a mis de la musique libre dessus? Je comprends pas trop la question.
Non, on se fait fermer, il écrit un peu.
Ah, on se fait fermer, ah, oui, d'accord, c'est les acronymes des chatteurs. D'accord.
Voilà,
mais je vois pas pourquoi on se ferait fermer son site perso si on met de la musique sous licence libre dessus.
Il y a aucune raison que cela.
Non. Il y a aucune
arrive,
raison que cela arrive.
Du moins pour l'instant, il faut voilà. Espérer que ça continuera.
Par contre, si un jour vous partagez des fichiers MP3 de Céline Dion sans DRM, alors là, mes petits gars, vous êtes mal barrés. Quoique je vois pas l'intérêt de partager des morceaux de Céline Dion.
Franchement. Ouais, moi non plus là.
Bon, ça, c'est un autre débat qualitatif. Celui-ci, on. Eh bien, maintenant, on va se tourner vers ceux qui nous accompagnent, Alexandre et Anaël. Rebonsoir. Alors vous faites plein de trucs. C'est difficile de dire bon voilà, vous vous occupez du projet Time Breach qui est un jeu sous licence libre. un jeu qui est en développement et qui compte déjà pas mal de contributeurs et qui est en somme toute un gros projet.
Oui, mais on fait plein de choses, mais on fait quand même partie de la communauté du libre, tout simplement.
Voilà, alors vous êtes étudiant à Nîmes.
Oui.
Dans une des 14 ou 16 antennes d'une école qui s'appelle SupInfo.
11 pour le moment et 14 plus tard.
Voilà, donc et vous vous occupez aussi, vous contribuez aussi à un truc qui s'appelle labo-linux.org. Alors c'est quoi, c'est chapeauté par l'école, quand ça a été mis en place et à quel objectif ça répond?
Alors en fait, le Labo Linux, c'est un pôle, comme ils appellent au sein de SupInfo. Donc en gros, c'est un groupe d'étudiants qui tout simplement décide de promouvoir le libre au sein de SupInfo et à l'extérieur, qui fait des projets, qui publie des documentations en français sur le libre, qui assure une veille technologique sur cette technologie-là, qui forme les autres étudiants et qui s'occupe tout simplement de faire du libre d'une façon ou d'une autre.
Le Labo Linux, son objectif, c'est de servir Linux, servir le libre. Nous faisons tous partie donc de la communauté du libre. Nous sommes tous un peu Linux et Linux est un peu nous tous, des membres du libre. Et l'objectif donc du Labo Linux, c'est d'apporter donc un regard par des informaticiens qui ont décidé donc d'offrir des articles, des news sur Linux, sur le libre. D'ailleurs, sur le site, vous allez pouvoir trouver pas mal de choses, articles, news, tips, beaucoup d'informations donc sur le livre, et aussi participer à des install parties. Mmh. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, les install parties, c'est vous allez tous venir donc. Là, je vais prendre le cas de SupInfo, donc dans un des 11 centres de SupInfo, donc le 19 mars, et vous aurez une super install partie avec Mandriva. Donc une petite distrib Mandriva qui est en ce moment en partenariat avec le Labo Linux, et on a une super install party. On va vous présenter donc divers projets de Linux au début, et puis vous proposer l'après-midi une install party. Et là, bon bah, c'est tous ceux qui veulent découvrir Linux ou qui sont confirmés, qui veulent plus d'informations, venez-y.
On peut venir avec son ordinateur sous le bras,
c'est le but,
et puis repartir avec un multi-boot, c'est-à-dire si on a acheté son Windows ou son macOS ou que sais-je, on va le garder parce qu'on l'a acheté hein, quand même.
Oui.
Et puis on va pouvoir démarrer le système sous les deux systèmes d'exploitation en choisissant simplement ce qui ma foi est un bon moyen de découvrir au-delà du CD Live.
Ah oui,
qui reste quand même la carte de visite la plus impressionnante pour le grand public.
Ah, ça c'est sûr, hein, le CD Live, il n'y a que du bon.
Il faut voir aussi que le Labo Linux permet d'avoir un forum qui s'appelle forum.labo-linux.org, sur lequel on répond tous les jours aux questions que peuvent se poser les gens, soit sur Linux, soit des questions techniques. Ça peut être aussi des questions qui sont non techniques. Donc je vous invite à aller, si vous avez une question, un problème ou quoi que ce soit, nous on a ce qu'on appelle des gros geeks, donc c'est en gros une usine à cerveau avec des lunettes et des boutons qui sort pas de sa pièce noire et qui essaye de résoudre des problèmes.
Ce qu'on peut noter aussi, c'est que justement on parle un peu de la Linux, c'est qu'il y a de très bons tutoriels. Alors tutoriels, ce sont des documentations qui sont disponibles sur le site et qui parlent de nombreux projets dont je me souviens pas, mais je sais que quand je suis allé faire un tour, il y en a qui sont vraiment d'excellentes factures, qui sont à peu près à tous les niveaux.
Pour alors, si vous cherchez des tutoriels, vous pouvez aller dans la section pas à pas. Si vous cherchez des petites infos, vous avez la section tips, vous avez les sections articles qui sont très bien pour vous présenter des choses telles que Colinux, Red sur NetBSD, donc des trucs très intéressants. Et pour le forum, effectivement, il y a tout. Vous verrez de l'admin système, de l'admin réseau, du scripting, de la programmation, des trucs divers. Linux from scratch, c'est pour les gens qui connaissent, c'est vous créer votre propre Linux, l'installation personnalisée pas à pas, et c'est en gros, n'oubliez pas une chose, c'est qu'avec Linux on peut créer son Linux, c'est pas un Linux qu'on utilise, c'est pas celui du voisin, vous pouvez avoir le plaisir d'avoir votre touche personnelle, c'est quelque chose que vous avez fait avec vos doigts, avec votre tête, avec votre cœur, parce que ça reste du libre, et le libre pour moi ça se fait avec le cœur, et donc c'est ça que l'on veut montrer au Labo Linux, et c'est ce qu'on veut réveiller chez les gens. gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, chez eux, attendent de découvrir Linux. Ils se disent, bon, on sait pas trop, on sait pas ce que c'est, mais qui ont quelque chose au fond d'eux, parce que c'est quand même Linux, c'est le pas pour découvrir pas mal de choses sur le libre.
Mais si vous voulez commencer, le plus simple, c'est de prendre une Mandriva, et ensuite, au fur et à mesure que vous vous expérimentez, vous pouvez aller vers des solutions où vous fabriquez vous-même votre Linux de A à Z avec une Gentoo et vous pouvez avoir vos problèmes à vous que personne n'a parce que vous l'avez fabriqué d'une certaine façon.
Voilà, alors à déconseiller aux gens qui ne savent pas faire.
Ah, la Gentoo, hein. C'est à déconseiller à tout le monde, sauf à ceux qui ont vraiment envie de faire un truc pas normal.
Alors pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas grand chose de tout ça, on peut aussi leur conseiller de faire un saut à Divergence puisqu'on a pas mal de CD de la distribution Ubuntu, mm-hmm. Qui reste quand même une des plus abordables pour grand public, notamment par rapport au montage à chaud des périphériques USB qui nous ont posé pas mal de problèmes sur certaines versions de Mandriva.
Et petite info pour Mandrake. Ubuntu.
Donc,
petite info pour Ubuntu. Attention, le 20 avril 2006, version voilà. 6.04.
Ça, on peut. C'est une news qu'on peut voir sur labo-linux.org.
C'est une news qu'on peut voir sur labo-linux.
À la destination de Gizmo34 qui nous demandait l'adresse, c'est labo-linux.org. Voilà. Donc, oui, c'était Gizmo34 qui nous demandait ça. Et puis, je crois qu'aussi vous faites pas mal de traductions de documentation, etc. Ça, c'est un sujet qui a l'air un petit peu trivial, mais souvent les informaticiens développent des choses. Mais après, dès qu'il s'agit de documenter, d'écrire comment on s'en sert, etc., là, ça devient beaucoup plus compliqué parce que bah, faire du code, on a été formé pour, on sait le faire vite. Par contre, être didactique, être un bon pédagogue, savoir vulgariser au mieux les concepts et les outils, ça, c'est pas forcément à la portée de tout le monde, surtout quand on est informaticien et pas forcément rédacteur au départ. Ça constitue aussi une activité assez importante de labo-linux.org.
Oui, et c'est très, très, très intéressant puisque donc chaque membre du Labo Linux, surtout donc dans la partie recherche, à faire des articles, à présenter diverses choses sur la Linux. Bon, je prends l'exemple là de Alexandre qui est en face de moi, qui a fait un article donc sur Colinux, une manière d'utiliser un Linux, par exemple sous un Windows. Quelqu'un qui voudrait découvrir Linux et rester dans son environnement Windows pour faire ça pas à pas. Donc c'est vraiment très 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 intéressant. Les articles, c'est un moyen aussi d'apprendre à celui qui crée des articles d'avoir à rentrer en contact avec des personnes qui connaissent pas forcément la technologie, donc à mieux rédiger ses articles, faire des trucs donc plus human friendly, on pourrait dire.
Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, c'est l'orientation de Supinfo. C'est pour ça qu'il y a un labo Linux au sein de Supinfo. C'est de pas faire des informaticiens qui communiquent pas avec les gens, c'est de faire des informaticiens qui sont capables de comprendre les autres et être au service pour fabriquer des outils pour les autres, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas informaticiens.
Donc stop au geek autiste coincé devant son écran avec sa copine qui se morfond à côté de lui et son nounours qui prend les toiles d'araignée.
Pas forcément place, stop, c'est venu chez
place
nous.
Place aux informaticiens qui savent communiquer avec le commun des mortels, quoi.
Oui, voilà. Ce sera le bonheur pour la copine, parce qu'au final, il sera peut-être plus boutonneux, il s'occupera peut-être un peu plus d'elle.
Ouais, en fait, il n'aura pas le temps, parce qu'il s'occupera des gros geeks qui sont derrière dans la pièce noire et qui essayent de produire un truc correct. Hein.
Ouais, pourquoi pas, ouais. Voilà, et puis on précise aussi que on est en train de voir comment, quoi, etc. Mais que Labo Linux devienne un intervenant régulier de Divergence Numérique. Mais pour l'instant, c'est encore à l'état d'étude. Mais c'est vrai que ça serait sympa de faire un pont entre Labo Linux et Divergence Numérique pour vulgariser, encore une fois.
Alors, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que le Labo Linux est là pour faire parler du libre. Nous, on est rentrés au Labo Linux pour ça. Donc, Alex et moi, on est déjà là pour ça. Si le Labo Linux peut venir avec nous, ça sera bien, on verra. En tout cas, le libre reste une communauté, tout est ouvert. Le site du labo est ouvert. Écoutez, Divergence, c'est ouvert. Donc, on verra si les choses s'entrecroisent.
Et je dirais même que, en tant que chef d'un projet communautaire, comme Anaël, je suis venu à Divergence pour les mêmes raisons que je suis rentré au Labo Linux et pour les mêmes raisons que j'ai monté le projet TimeBridge avec Anaël. C'est l'idée de partager les choses et d'arrêter de faire les choses dans son coin, parce qu'en général, quand on est tout seul, ben on réfléchit, mais des fois on se trompe. Et à tous ensemble, plus on est nombreux, moins on fait de conneries, quoi.
Absolument. On va être obligé d'enchaîner parce que même si on a démarré un tout petit peu après 19h, il nous reste très peu de temps. Je vois que Dimitri nous a rejoint sur le chat. Il va avoir quelques instants pour nous filer un petit coup de fil de Marseille pendant que nous écoutons les Cristaux Liquides, un groupe montpelliérain qui nous interprète Zubrowska, qui a été formé en 2000 par Paku Paku et Fenris pour dériver joyeusement entre musique électronique dans des travers incertains avec néanmoins un goût pour le second degré. On peut notamment leur attribuer l'invention de l'électroniska, variante moderne et dégénérée du ska à la sauce électronique. C'est sous licence Creative Commons by NCSA 2.0 et ça s'appelle Zubrowska. We'll be right back. Voilà, un morceau qui vous saoule peut-être, mais c'est normal, ça s'appelle Zubrovska. Elle est facile, c'est les cristaux liquides sous licence Creative Commons by NCSA 2.0 pour continuer cette divergence numérique 27e du nom sur Divergence FM 93.9, faut-il le rappeler, alors que nous avons Dimitri Robert avec nous au téléphone. Bonsoir Dimitri.
Bonsoir tout le monde.
Ah bah on est content de t'avoir, ça fait un petit moment qu'on t'avait pas, bah ni en chair et en os, ni au bout du fil, pour présenter bah par exemple l'agenda du libre ou autre joyeuseté, et animer avec nous Divergence Numérique. Alors comme tu nous le demandais, bah oui, on a parlé en début d'émission de lestéléchargements.com, évidemment dans les nouvelles du front.
Et de son pendant.info.
Et de son pendant.info, oui. Justement, peut-être pour rebondir sur cette problématique fort d'actualité, tu as quelques éléments, toi.
Oui, effectivement. Déjà, vous avez signalé le pendant.info, mais vous savez qu'il y a aussi deux autres pendants, le pendant.org et .net, qui sont encore d'autres, un autre site. En fait, c'est le même site, le .org et le .net, mais ce qui montre bien que le gouvernement n'a pas vraiment compris ce qu'était Internet, quoi.
Oui.
En ne réservant qu'un seul nom de domaine, c'était la porte ouverte au cybersquatting, et c'est ce qui s'est passé.
Exactement.
C'est... Il y a aussi les versions les-téléchargements.com et point, c'est laquelle l'autre, je crois que c'est .org. Non, le .org est encore libre, enfin est encore libre cet après-midi.
D'accord.
Ça peut changer.
Donc un manque de prévoyance et de compétence, on va dire, de par l'administration.
Je pense que c'est un manque, oui, de connaissance de ce qu'est Internet. Enfin, ils essayent de lancer un site sans vraiment trop savoir comment fonctionne Internet. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on a appris, je pense que Olivier Meunier, qui est concepteur de Dotclear, a appris une bonne nouvelle, c'est que on peut aujourd'hui faire un site web fait avec Dotclear, donc Dotclear qui est un outil de blog, et on peut vendre ce site pour 180 000 euros. Donc je pense que c'est une belle somme. Voilà, en fait, le site lestéléchargements.com a été conçu par la société PublicisNet en utilisant le logiciel libre Dotclear. Bon, cependant, ils ont oublié de le préciser sur le site, mais quelqu'un d'un peu curieux, en regardant l'intérieur du site, enfin pas l'intérieur, mais le code source, ce qui est affiché dans le navigateur, voit assez rapidement que ça a été fait avec Dotclear, puisque c'est écrit clairement. Quoi. Mm-hmm. Mais seulement, ça n'apparaît pas dans les crédits.
Alors, fait avec un logiciel libre, mais malgré tout sur l'argent du contribuable.
Oh, voilà. Bon, effectivement, dans un sens, c'est très bien que l'administration utilise du logiciel libre.
Ah, plutôt, oui.
Ça serait quand même mieux de le signaler, enfin, au moins
oui,
de reconnaître.
En général, c'est ce qui est fait, ouais.
Pardon, en fait, je vous entends pas très bien.
En général, c'est ce qu'on fait quand on utilise des logiciels libres pour faire un site. En général, on le met toujours en bas du site. Ce site a été réalisé avec des logiciels libres et on les cite, quoi.
Là, visiblement, il y a une certaine honte à avouer que... Alors, de qui vient la honte ? Effectivement, on peut se poser la question.
Ouais.
Est-ce que ça vient du gouvernement qui a honte d'utiliser des logiciels libres alors qu'en parallèle, il propose un projet de loi qui va à l'encontre des logiciels libres, ce qui est un peu incohérent ? Ou est-ce que c'est la société PublicisNet qui n'a pas informé le ministère de la Culture ? C'est possible aussi.
Je pense que c'est cette solution-là.
Je pense aussi que c'est cette solution-là. Donc, en facturant très cher, parce que c'est vraiment exorbitant, 180 000 euros, pour produire un site web qui finalement n'est que de l'adaptation d'un logiciel libre, qu'ils n'ont pas payé évidemment. Quoi.
Mais c'est tout à fait légal par contre.
Ah, c'est tout à fait légal, bien sûr.
On peut pas les critiquer sur le sujet.
Le problème vient du tarif pratiqué.
Qui est honteux.
Ouais, c'est vrai que ça fait un petit peu, ça fout un peu les boules. Moi, je vous le dis honnêtement, parce que 180 000 euros, avec ça, on vit 4 ans à Divergence. Donc, il faut quand même pas déconner. Peut-être avant de passer à la fin de l'émission, parce que là le temps commence à se raccourcir, par rapport justement à cette histoire de DRM, de fichiers qui contiennent des mesures de protection, en tout cas des mesures de contrôle de l'usage, on le répète assez. Je crois que tu es en train de travailler un argumentaire ou un article
sur
qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça marche.
Quand j'ai lu le projet de loi donc des DVSI, il y a quand même un mot qui m'a interloqué. C'est le but, c'est de protéger les mesures techniques de protection efficaces. Le mot efficace est bien spécifié. Mmh. Et j'ai réfléchi 5 minutes, je me suis dit, ça n'existe pas les mesures techniques de protection efficaces. Que ce soit un CD audio, que ce soit un fichier numérique, que ce soit un DVD, il y a toujours moyen de contourner techniquement cette mesure. C'est d'ailleurs le but de cette loi, c'est d'interdire qui ne peut pas être interdit par la technique.
Oui.
Je ne sais pas si tout le monde l'a bien compris cela, mais c'est vraiment le but de cette loi. Mmh. Et en fait, si on voulait vraiment rendre ces mesures techniques de protection, donc les DRM, efficaces, en fait, il faudrait révolutionner complètement notre usage du multimédia, de l'audio. Par exemple, un CD audio, il est protégé contre la copie, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le lire sur un ordinateur. Par contre, vous pouvez normalement le lire sur votre chaîne IFI. Là encore, normalement, parce qu'il existe certains cas où ça ne marche pas. Ce qui est bien dommage, on vous vend un produit défectueux. Donc, si toutefois vous arrivez à le lire sur votre chaîne IFI ou sur votre poste, généralement sur ces appareils, il y a une sortie où on peut brancher des haut-parleurs, une prise de jack. Mmh. Sur votre ordinateur, si vous avez une carte son, vous avez une entrée micro sur laquelle vous pouvez brancher un micro.
Absolument.
Eh ben non, vous reliez ces deux prises-là avec un câble avec des jacks des deux côtés. Vous lancez votre chaîne IFI et vous lancez l'enregistrement sur l'ordinateur. Et là, vous faites une copie à l'identique du CD. Et cette fois-ci, vous avez une copie qui est exempte de verrou.
Absolument. On passe par le trou analogique, en quelque sorte.
Et de même pour un fichier numérique, de plus en plus on voit des plateformes dites légales qui permettent de télécharger des fichiers qui sont verrouillés et qui ne sont utilisables qu'avec certains logiciels ou sur certains appareils qui sont autorisés à décrypter donc ces fichiers qui sont chiffrés. Donc pour que ce système fonctionne, il faut que bien sûr ces fichiers-là ne soient ouvrables que par certains logiciels. Et ces logiciels doivent fonctionner sur des systèmes d'exploitation également propriétaires. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas faire un logiciel libre, par exemple, qui puisse lire un fichier numérique. Donc ça repose en fait sur un format fermé. C'est-à-dire que ce DRM, ce fichier donc, qui est protégé par un DRM, on ne sait pas comment il est conçu. C'est une protection qui est basée sur le secret. Donc vu que cette information n'est pas divulguée, on ne peut pas produire de logiciels libres capables de lire ces fichiers. Bon, avec l'expérience, on s'appelle...
En théorie, ça s'appelle reverse engineering. C'est-à-dire retourner le code pour voir comment il est constitué. C'est comme ça qu'on a réussi à... Enfin, du moins que DVD John a réussi à casser le code des DVD pour qu'on puisse lire les DVD sous
Linux. Et un exemple plus répandu encore, c'est les fichiers produits par MS Office, donc Word, Excel, qui sont lisibles dans OpenOffice.
Tout à fait. Oui.
Donc, pourtant, le format de ces fichiers-là n'est pas connu. Mmh. Et pourtant, on peut les utiliser dans OpenOffice. Donc, l'expérience montre que cette protection par le secret ne dure qu'un temps. Donc, en fait, pour que cette protection dure à l'infini, il faudrait carrément interdire les logiciels libres. Il faudrait interdire que le matériel ne puisse accepter que des systèmes d'exploitation dit autorisé.
Tiens, Dimitri, on vient d'apprendre par Sobralnet sur le canal IRC de Divergence, irc.divergence.net,
ouais,
que le site lestéléchargements.com, depuis cette fin d'après-midi, marque qu'il est bien propulsé par DotClear, avec le lien vers DotClear, après de nombreuses plaintes qui ont été déposées un peu partout concernant effectivement ce site. Bon, maintenant, est-ce qu'ils vont être payés de ce qu'ils ont fait pour ça ? Légalement, c'est tout à fait possible,
mais
après, c'est un problème d'honnêteté de leur part. On peut signaler d'ailleurs que DotClear est utilisé aussi sur France 2 et que France 2 n'a toujours pas dit que c'était DotClear qui était derrière.
Effectivement. Mais voilà. Bon, je pense qu'on peut se réjouir de cette nouvelle. Ça montre que ce qu'on appelle la blogosphère, donc c'est en fait un peu tous les gens qui tiennent un blog sur Internet. Effectivement, moi-même, cet après-midi, j'ai publié un article sur mon blog. C'est le cas de Tristan Nito, c'est le cas d'Olivier Meunier. Il y a eu énormément de bruit cet après-midi sur Internet et je pense qu'ils se sont sentis obligés de réagir quoi, en fonction de ça.
Voilà.
Voilà, bah Dimitri...
Pour conclure, on va citer l'adresse, l'URL de DotClear, parce que dit comme ça, c'est pas forcément clair. Donc, ça s'écrit DOTCLEAR, .net.
Voilà, www.dotclear.net. Bien justement, pour rebondir par rapport à ce que tu disais, il faut citer quand même que le 29 janvier, une nouvelle qui venait des États-Unis, des parlementaires américains ont proposé un projet de loi visant à imposer que tout périphérique numérique proposé aux États-Unis se conforme à un marqueur introduit dans les flux vidéo, le Digital Transition Content Security Act, HR 4569, on s'en fout.
Mais comme le signale le journal PC Impact, ce texte rendra illégal, ouvrez les guillemets, la simple production ou vente de produits électroniques qui convertit un signal analogique en données numériques sans inclure les DRM de rigueur. Donc finalement, en fait, pour que le DRM marche, il faudrait qu'il y ait qu'un seul système d'exploitation au monde, qu'une seule marque d'ordinateur, qu'il y ait un monopole mondial d'État ou privé qui fabrique tous les supports, les lecteurs, les autoradios, les téléviseurs, enfin tous les appareils finalement qu'on utilise partout.
Jusqu'au jour où il ne faudra qu'une seule marque de citoyen.
Ah, exactement.
Tout à fait. Non, c'est là où on se rend compte du scandale et où on... L'Europe, là, ne réagit pas comme il faut, parce qu'effectivement, ce sont les Américains qui dirigent le train aujourd'hui et personne ne bouge.
Ouais.
Les lobbies, je pense, sont très très puissants. Il y a beaucoup d'argent. Pour vous faire donner une petite info, sur le chiffre d'affaires de Microsoft, qui est assez énorme, quand même, il y a 80% de bénéfices. Donc... bon, après, vous voyez les avocats, les lobbyistes de ce groupe, vous voyez comment ça se passe, quoi.
Mais néanmoins, il ne faut pas sous-estimer la puissance de la société civile qui ne manque pas de se réveiller à chaque fois que les lobbies écrasent un petit peu plus la démocratie. Voilà, c'est dit. Peut-être, Dimitri, juste avant qu'on se quitte, on n'a pas vraiment, pour des problèmes d'affichage, on n'a pas l'agenda du libre sous les yeux, puis nous, on n'a plus le temps de le faire. Alors, s'il fallait citer un rendez-vous autour des logiciels libres à venir dans les semaines qui viennent. Moi j'en ai un, la fête de l'internet à 7 à côté de Montpellier, du 17 au 25 mars, ça aura lieu à la médiathèque François Mitterrand à l'espace culture multimédia, avec notamment des choses autour de Linux, une conférence sur découvrir le système d'exploitation libre Linux, avec la participation de Hall, ce sera le 18 mars à 16h, il y aura aussi côté ça, il y aura le 21 mars, le 23 mars et le 24 mars des présentation détaillée de logiciels libres avec notamment The Gimp le 21 mars, OpenOffice le 23 et Audacity le 24. Donc allez faire un tour sur le site www.ville-7.fr/médiathèque. Là vous aurez tous ces renseignements. On parle aussi des install parties qui auront lieu à Supinfo à Nîmes pour ce qui est le plus près de chez nous. Ce sera le 19 mars dans toutes les Supinfo de France pour ceux qui nous écoutent loin de Montpellier, avec présentation Linux et de Mandriva le matin et après-midi install party de Mandriva. Et puis voilà, je crois que tout est dit. Dimitri,
oui, peut-être rajouter parce qu'effectivement la fête de l'internet,
il y a le FOSDEM ce week-end
en France. Et il y aura notamment le 22 mars donc à Aix-en-Provence, à la médiathèque, la Méjane. Donc il y aura une après-midi consacrée aux jeux vidéo sous Linux. Il y aura aussi un débat, ça je ne sais pas encore quand ça sera, c'est organisé par Frédéric Dutoit, donc, qui est député de Marseille. Un débat donc pour parler notamment des droits d'auteur sur Internet. Donc ça sera aussi dans le cadre de la fête de l'Internet, mais sur Marseille, j'ai pas encore tous les détails. Quoi.
Voilà, et puis le FOSDEM, c'est ce week-end, c'est un gros gros salon qui a lieu
en Allemagne.
Voilà.
Et on aura d'ailleurs un retour du FOSDEM par notre cher ami Raphaël Jacot, développeur de Nokia 770 qu'on avait déjà interviewé et qui vient souvent à Divergence nous rendre visite, donner de l'aide, etc. qui lui déjà... presque en partance pour le FOSDEM.
Voilà, on va se quitter tout à fait parce que là, on est vraiment à la bourre. On te remercie, Dimitri, de nous avoir appelé depuis chez toi. Et puis, on se dit à très bientôt.
À la prochaine.
Voilà. Et puis, on va se quitter en musique en remerciant Manuel Plaza pour avoir fait la régie de cette émission. Gilles Gouget et Albert Brugge vous saluent. On remercie aussi Alexandre Cabrol, Perales et Anna Navarro qui nous ont rejoints pour cette émission. En rappelant que Divergence Numérique, c'est sous licence libre aussi, Creative Commons, et qu'on pourra la retrouver sur libre-radio.org dès qu'on l'aura fait. Hein.
Voilà, ça comme et ça. Puis bientôt dans d'autres radios libres de France, notamment une à Bruxelles dont je ne me souviens plus le nom.
Voilà, on vous tiendra au courant de tout ça. On se quitte avec Versus qui nous interprète 4Play. C'est de 2004, c'est sous licence Creative Commons by NCND 2.0. Salut à tous, salut à toutes et restez libres.
Merci.
À bientôt.
Divergent.